le théâtre La Passerelle, à Gap, vous propose de rencontrer les artistes complices sur Fréquence Mistral. Rencontre avec les artistes associés et en résidence, Fréquence Mistral et le théâtre La Passerelle, à Gap.
Et je suis aujourd'hui en compagnie de Ottilie Béal. Ottilie, bonjour.
Bonjour.
Pour te présenter en quelques mots, Ottilie, tu es artiste, compositrice, interprète, multi-instrumentiste. Tu as un univers très singulier qui est hybride, dont je t'avais déjà reçu l'année dernière. Ouais. Tu explores plein de choses. Tu as aussi été associée au théâtre entre 2023 et 2025. Cette année, tu es accueillie en résidence sur cette saison 2025-2026 au théâtre La Passerelle. Et donc aujourd'hui, tu es avec nous pour nous parler de ton projet Impressionné, oui. Puisqu'il va être présenté en janvier 2026, on va pouvoir le voir, le 29 janvier. J'avais quand même envie de te poser une question un peu générale pour introduire cet entretien. Dans les choses de ton identité artistique, il y a cet aspect de recherche et d'expérimentation. Et j'avais envie de savoir, cette année, là, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, quelles ont été tes inspirations, justement, pour expérimenter ? Est-ce qu'il y a eu, justement, des nouveautés que tu t'es amusée à explorer ?
Je viens d'acquérir un nouvel instrument de musique qui s'appelle le kotamo. Ça, c'est le fait du moment. Je suis un petit peu tombée amoureuse de ses sonorités. C'est une luthière incroyable qui l'a fabriquée. Elle vient du Gers. Un instrument très à la fois méditatif et plein de fréquences, de sonorités très puissantes. En même temps, il est percussif. Hein, il y a plein de choses. Je pense qu'il sera sur la création Impressionnée parce que ça a été un vrai coup de cœur. En termes d'autres types d'exploration, sur Impressionné, je serai à la danse aussi. Le truc prévu était au départ plutôt une lecture musicale et là, on va plutôt sur une performance en corps et en musique. Je me suis associée avec le chorégraphe et danseur Romain Berthet de la compagnie L'Œil Ivre. On a travaillé ensemble depuis avril l'année dernière. On est dans une forme de co-écriture aussi des récits, on cherche ensemble. Il y a Clément Innocenti qui est au son et Véronique Gouga à la création lumière. J'ai vraiment envie de donner à voir l'invisible des corps avec cette création Impressionnée, avec maintenant la plus de quarantaine de récits que j'ai récoltés autour des vécus du corps. Je m'aperçois que c'est beaucoup de la souffrance dont on a envie de parler, dont les gens ont eu envie de parler. Et je me suis dit que déjà la performance a commencé à ce moment-là parce qu'il y avait une forme de représentation sociale qu'on faisait l'un et l'autre, moi en tant qu'artiste et puis la personne qui venait me voir. Mmh. Et je me dis que Impressionnée, donc la thématique d'Impressionnée, c'est comment nos vécus ont un impact sur notre présent. Et j'aimais bien recentrer ça. C'est quand même une création où j'ai envie de proposer à chaque fois de la médiation, de la prévention et un temps de bord plateau. C'est des récits qui peuvent toucher des sujets très émotionnels. Je pense que c'est important qu'on puisse discuter de cette démarche à la fin. On aborde l'inceste, on aborde les viols, oui. On aborde les violences physiques. Pour moi, c'est un sujet qui est très politique dans le sens citoyen du terme. Mmh. Et je pense que moins ces sujets seront tabous et invisibles, comme nos traumatismes, hein, voilà, on les porte pas toujours sur le visage, plus on trouvera des solutions collectives aussi à comment traiter les anciennes victimes, comment traiter les anciens agresseurs et ou les futurs agresseurs. Il faut que je précise que c'est souvent des hommes, hein, quand même, qui perpétuent les agressions. J'ai l'impression que voilà, ce sujet-là, il est important de le traiter par le biais de l'art, mais aussi de la santé et aussi de la citoyenneté. Et alors particulièrement là, à la passerelle, le 29 janvier, il y aura une tatoueuse qui fait des tatouages unique. Et je trouvais ça intéressant de convier cette femme qui s'appelle Cher Tendre, c'est son nom d'artiste. Elle est sur Marseille, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui est costumière aussi. Et elle sera là du coup le lendemain de la représentation pour proposer des flashs à un tarif unique de 60€ le flash. Et voilà, pour toutes les personnes qui auront envie de s'inscrire le soir de la représentation pour le lendemain. Elle va faire des dessins spécifiques en lien avec le spectacle, la réparation, le soin. Peut-être donner plus de présence pour celles et ceux à qui ça peut faire du bien de passer ce temps-là et de marquer des étapes en fait sur la peau.
Tu as fait un tour d'horizon très intéressant et j'avais envie de rebondir sur plein de choses en t'écoutant. La première chose qui m'a interpellée, c'est ce travail de la danse. On parlait des nouveautés de ta recherche. Est-ce que c'est une première pour toi du coup d'être toi-même interprète danseuse ?
Oui, sur scène oui. Après, j'ai une pratique de danse très régulière. Je suis un peu la chanteuse qui aurait aimé être danseuse parfois. Justement, autour de ces questions du corps, il y a énormément de cristallisation pour moi, de montrer mon corps. Je suis une chanteuse qui a eu beaucoup de mal au début à la scène parce que les gens me regardaient, que j'aimais pas mon apparence physique. Et je crois qu'on est nombreuses et nombreux à contester le véhicule qu'est notre corps, ce qui est assez étrange d'ailleurs, voilà, que ce rapport au corps soit tant conflictuel. J'ai eu peu de gens qui sont venus me dire « Ah, j'adore mon corps, je suis très heureux avec.
» Est-ce qu'il y en a eu, malgré tout ?
Oui, peut-être. Deux ou trois. Ouais.
Mais rare, bon, finalement.
C'était hyper rare. Ouais.
Sur la quarantaine, c'est une quarantaine de témoignages,
oui.
Hein, c'est bien ça.
Donc des témoignages qui ont été sur adhésion volontaire. J'ai fait un appel à témoignages. Il y a eu aussi des moments où je suis allée vers des associations de protection des victimes et des violences. Aussi en détention. Deux fois, milieu ouvert, milieu fermé. Également sur des festivals. Voilà, il y avait des temps ouverts pour les gens. J'ai bien conscience que c'est lié à mon filtre. Hein, voilà. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que cette création, elle me challenge aussi, moi, au niveau du corps, avec cette exposition du corps dans la danse. Il y a vraiment quelque chose dans le mouvement, comme dans le chant, finalement, que je trouve très libérateur. Et pour moi, la voix, c'est un geste.
Et la danse aussi, finalement.
La danse aussi, tout à fait.
Pour revenir justement à ce recueil de témoignages, tu viens d'évoquer que tu étais allée à plusieurs endroits. Comment est-ce que ça a été accueilli, justement ? Est-ce que les gens ont réussi à venir déposer des choses, tu l'as dit, qui sont parfois assez lourdes ? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour accueillir ces témoignages ?
J'ai vraiment suivi un protocole d'entretien à l'identique. Que j'ai pensé avec des personnes habituées à recueillir des témoignages. Du coup, à la fois, j'avais un déroulé de l'écoute active pendant 20 minutes où je n'interrompais pas la personne qui venait se confier. Ensuite, on avait un temps d'échange et puis, si je sentais que c'était important, j'avais toute une collecte de ressources pour le soin, la santé psychique aussi, et pouvoir orienter les gens s'il y avait besoin, parce que moi, je posais bien comme cadre que je suis juste une artiste, que je n'ai pas de vocation à faire une thérapie ou autre. Ça a été vraiment très bien perçu. J'ai fait mon maximum pour que ce moment il soit dans quelque chose de l'écoute pure, sans forcément donner mon avis, ni avoir un jugement sur ce qui m'était confié. La plupart des personnes qui venaient me disaient « Oh là là, je ne sais pas si je parlerai 20 minutes ». Ça n'est jamais arrivé que personne n'arrive à parler 20 minutes. Il y avait cette surprise-là et moi, ça m'a beaucoup émue et touchée aussi parce que finalement, au regard de ces témoignages, ça allait au-delà de l'empathie, c'est-à-dire que j'avais l'impression que ça parlait aussi de moi. Alors bon, 40 ans passés pour me réapercevoir que les créations, ce qu'on dit, voilà, on parle toujours que de nous. Hein, et j'ai eu un petit moment de déprime quand même, à me dire « Oh mon Dieu, mais encore, je vais parler de moi, bouh !»
La remise en question aussi.
Oui, en me disant « Je vais multiplier les récits et ça va permettre de... » Et finalement, ça résonnait tellement avec mes propres vécus et aussi la façon que j'ai de percevoir le vivant, d'avoir des frustrations moi aussi, d'avoir que c'était finalement hyper intense et je suis en train de encore traverser un conflit de loyauté par rapport à ces récits, à me dire « Oh là là, pourquoi choisir celui-là plutôt que celui-là ?» Il y a encore tout un travail d'écriture à muscler pour pouvoir rendre l'œuvre vraiment universelle sans que ce soit sans mettre le doigt sur des récits trop individuels. Voilà, il y a encore du travail jusqu'à janvier. On est à fond là-dessus. On était en résidence à Barcelonnette la semaine dernière. On a fait une restitution publique d'une forme qui commençait de laquelle, en tout cas, moi, je commençais à sentir une forme d'aboutissement. Mais j'ai encore plein de besoins d'écrire, de retisser, de re-réfléchir. Voilà. Et puis le petit stress aussi, parce que c'est une création pluridisciplinaire que j'affirme en tant que directrice artistique. Ben, j'espère que ça pourra inspirer les gens à oser dire, à oser se montrer, à oser...
Il y a quelque chose aussi que tu avais déjà évoqué tout à l'heure et qui me revient là en t'écoutant, sur l'aspect aussi presque militant de se réapproprier son corps, cet aspect universel aussi, de faire comprendre que tous les corps ont leur place dans la société. Oui. Comment est-ce que c'est venu cet aspect, ce discours-là que...
Je crois que le militantisme, il venait surtout au départ du besoin de ne pas silencier les vécus traumatiques. Et aussi pour expliquer que parfois, ces traumatismes sont invisibles. On ne les voit pas sur le physique, mais ils laissent une trace dans la façon qu'ont les gens de relationner les uns avec les autres. Je n'ai pas l'impression de revendiquer quelque chose. J'ai l'impression de plutôt ouvrir des espaces. Je crois que j'ai envie que ce soit qu'on amène de la simplicité dans comment on relationne les uns avec les autres. Des endroits où on peut être authentique et se dire les choses. J'ai l'impression qu'on nous demande beaucoup, voilà, aux gens qui ont subi des traumatismes, de résilier. Puis les autres choses, ça va être, il faut être mince, il faut être ci, il faut être ça. Il y a énormément d'injonctions sur les corps, alors qu'ils sont parfois empêchés. Il y a toute forme de déterminisme, qu'il soit physique, psychique, sociaux. En fait, il y a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas, ou en tout cas qu'on ne peut pas contrôler. Et que la plupart des gens qui contrôlent ont soit des aides, quelles qu'elles soient, financières, et où, voilà, ça révèle aussi énormément les inégalités sociales, en fait, le rapport qu'on a avec notre corps. J'ai l'impression que c'est un sujet pour lequel tout le monde pourrait militer, en fait. C'est pas seulement un combat individuel, c'est vraiment un combat de société. C'est là où ça devient politique pour moi de voilà, peut-être trouver des espaces de réflexion plus profonds autour de ces sujets-là. Ce que je me dis, c'est que plus on avance dans la recherche autour des traumas et autres violences perpétuées, et plus on s'aperçoit qu'il y a une porosité entre l'agresseur et l'agressé, et vice-versa. Et c'est quelque chose que nous, on doit décortiquer pour savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, comment on peut traiter les agresseurs et agresseuses.
Et j'entends aussi qu'il y a beaucoup le sujet de l'agression. Est-ce que c'est quelque chose qui est sorti particulièrement dans les témoignages? Est-ce qu'il y a eu d'autres...
60-70%.
Ah oui, c'est gigantesque.
C'est énorme. Après, j'ai eu aussi le cas de personnes qui venaient tenter de livrer quelque chose de positif, mais qui avaient vraiment des gros trucs enfouis, finalement. Et je pense que le dispositif en lui-même permettait ça. Je commençais à être aguerrie aussi, à lire entre les lignes et entre les mots pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière. Ça permettait aussi de recevoir des choses qui n'avaient jamais été dites, par exemple. Et je trouvais ça assez effarant de me dire « Waouh, alors moi qui suis l'inconnue là, parce que ça va être anonymé et parce que les personnes s'autorisaient à libérer quelque chose. » Et c'était vraiment mon intention de départ, c'était de créer une sorte de cimetière de vécu, en fait, ou de recueil dans le sens... endroit de recueillement aussi. Et puis des fois, on peut aussi déposer. C'est pas juste se débarrasser, c'est on dépose. Et puis le fait que ça participe à une œuvre, je trouvais ça intéressant, que ce soit du recyclage, en fait. Et cette idée de résonance, elle est incroyable, parce que j'ai travaillé une bonne partie de la bande-son, je suis encore dessus, autour des sons qui servent à nous soigner.
Donc sur les sons d'hôpital, par exemple.
Exactement. Donc je suis allée faire une bonne journée de prise de son à l'hôpital de Briançon, grâce à Rodolphe, là ici, de l'hôpital de Gap. Il m'a mis en réseau avec l'équipe technique des hôpitaux et tout ça. C'était vraiment super, parce que je suis passée dans tous les services et j'ai recueilli le bruit de la pompe de réa, la dialyse, le scanner, l'IRM, les échographies, le Doppler. Et j'aimais bien aussi détourner, parce qu'en fait, il est question énormément de fréquences et de vibrations, même sur l'IRM qui est l'imagerie par résonance magnétique. C'est vraiment ces histoires de fréquences, de diffusion de la matière, de lumière. Et je trouvais que ça avait vraiment sa place au sein d'un spectacle, parce que ce sont nos outils. La lumière, le son, on utilise du coup ces éléments pour voir l'invisible des corps. Et je trouvais ça super d'en faire quelque chose, en fait, et de les mettre aussi au cœur de cette création. Et c'est hyper poétique, en fait, je trouve aussi. Le fait que ce qui va nous rassembler quand on fait une radiographie ou autre chose, c'est qu'en fait, on ne sait plus qui est ce corps, on ne sait pas quoi, mais on voit la même chose, des os, des poumons. Je trouve ça ultra poétique. Et aussi qu'on cherche à réparer tout le temps des vis dans le poignet. Voilà, on cherche aussi à réparer nos corps, quoi. Il y a quelque chose comme ça...
Ah, donc tu viens d'évoquer ta recherche sonore dans l'hôpital. Tu as évoqué aussi le fait que c'est encore un travail qui est en cours.
Oui. Bon, il serait temps qu'on arrive bientôt au bout, puisque c'est fin janvier.
Mais puisque ça arrive, ça arrive bientôt. Vite, hein. Ouais. Comment est-ce que tu as procédé justement pour travailler ces témoignages, pour les transformer en danse, en poésie? Et quelle forme est-ce qu'ils vont prendre là à peu près?
On aura une partie de récit très brut, sous forme de récit documentaire, on va dire. Et puis des choses beaucoup plus éthérées et moins narratives. Par exemple, il y a tout un poème qui va lister la façon qu'ont eu les gens de nommer les parties de leur corps. Et pour moi, c'est ultra poétique, en fait, parce que je reconnais les histoires et ça peut évoquer plein de choses aux gens. Ça laisse la place de comment on se nomme. Mon poignet, mon bras, ma mère, le bras armé de mon père. Il y avait toutes ces évocations, ce champ lexical du corps que j'ai aimé... relever et réécrire au fil de tous ces témoignages. Et puis après, il y a aussi vraiment de l'écriture, une forme de réinterprétation des faits. Je pense pas que les gens vont reconnaître au mot près ce qui m'ont livré, c'est sûr. Après, pour l'avoir exploré avec des complices, ça fait vraiment quelque chose d'entendre sur scène redit son témoignage, d'une façon ou d'une autre. En tout cas, de reconnaître « Ah, mais ça, c'est moi qui en ai parlé ».
Et donc, en ce qui concerne l'équipe qui a été autour de toi, tu parlais de tes complices, ça me fait rebondir justement sur Romain Berthet avec qui tu as travaillé, qui est danseur et chorégraphe. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé, votre rencontre, et comment est-ce que vous avez travaillé ensemble, puisque j'imagine que c'est lui qui t'a soumis la chorégraphie. Est-ce qu'il va danser avec toi sur scène?
Lui, il va danser, et puis on va danser ensemble. On a cherché aussi autour de l'hybridation, de la chimère et de comment nos corps peuvent se déliter, se composer, se décomposer, se recomposer. Du coup, on a pas mal travaillé à de l'improvisation aussi. On s'est partagé nos inspirations. C'est aussi quelqu'un qui est très engagé sur cette création. Lui-même est créateur et directeur artistique, donc il apporte vraiment quelque chose. C'est quelqu'un qui travaille énormément sur la scénographie. Je suis très reconnaissante de cette collaboration qui m'a été suggérée par la directrice du théâtre du Reims. Je cherchais un type de voix, en fait, au départ. C'est ça la réalité, c'est que j'avais envie qu'un homme puisse porter ses paroles au plateau avec moi, en tant que femme, on est tous les deux cis. Je trouvais ça intéressant que ces espèces de stéréotypes masculins, féminins puissent trouver de la décomposition, de la recomposition, et en même temps qu'on puisse porter ces paroles ensemble et pas que ça devienne un récit uniquement féminin. Même si, pour moi, c'est aussi un moyen de donner envie aux hommes de se livrer autour de ces sujets. Parce que les hommes ont été les moins verbeux. Et avec un peu d'humour, les plus de témoignages que j'ai eus, c'était en détention. Donc c'était des personnes qui m'ont livré des témoignages, mais ils étaient là sur place. Et on a participé, on a fait des ateliers ensemble. Et puis il y a eu des moments d'entretien. Et c'était d'une puissance, en fait. C'était vraiment très beau. Je suis hyper touchée par ce qui m'a été livré, vraiment. Il y a des gros dossiers qui sont sortis, du coup. J'ai eu du mal à rentrer dans les matières parce que j'avais l'impression que c'était des diamants, en fait. Que c'est des trucs hyper précieux et je ne savais pas comment traiter cette matière.
Et pour revenir sur l'équipe qui t'a entourée dans ce projet, tu m'as évoqué que Clément Innocenti a travaillé avec toi sur le son, notamment.
Oui.
Il me semble qu'il a aussi travaillé avec toi sur l'album en boucle qui sort aujourd'hui.
Tout à fait. Oui.
Et donc, c'est peut-être l'occasion aussi d'en dire deux mots.
Oui, de parler de ça, mais bien sûr. Il y a un album qui sort en boucle, c'est un quatuor. Je dis quatuor post-numérique parce que ça me fait beaucoup rire parce que en fait j'ai énormément travaillé autour de l'informatique musicale et que là pour moi c'est une forme très récréative de proposer ma musique. On réinterprète les titres de mes trois précédents albums de façon totalement acoustique. Alors il y a un petit peu de post-production, il y a quelques effets qui ont été remis au moment du mixage, de faire les choix des morceaux et tout ça, avec Cyril Pellegrin qui a fait le mixage avec moi, qui est un ami très cher aussi, avec qui on travaille depuis très longtemps sur mes projets, les autres albums, les lives et tout. Et donc Clément, oui, c'est lui qui accompagne tout le live dans boucle, mais il est aussi régisseur de ma compagnie, du Vivant. J'ai donc cette compagnie du Vivant dans nos cordes qui est basée à Embrun, qui est une compagnie conventionnée. On est aussi une autre équipe, c'est-à-dire que pour que tout ça vive, il y a aussi l'administratrice, Joël Noguer, il y a aussi le chargé de diffusion, qui est Thomas Charlotiot. En fait, tout ça, c'est pas seulement de l'artistique, c'est aussi les musiciens qui viennent. Il y a Brice Perda au cuivre, Wydad Abdesmed qui est altiste, Marco Lacaille et Léo Danet qui sont percussionnistes. Quelqu'un va rejoindre l'équipe qui s'appelle Flo Digbeu. Il va rejoindre l'équipe en remplacement de Marco. Et voilà, en boucle, c'est une aventure. Ce live sort, on fera une sortie parisienne en février. Il y a eu des clips. On a énormément trippé sur les clips aussi avec Marie Lachaud d'Equinox. Parce qu'on avait envie, vu que c'est un album dans un esprit live, de restituer quelque chose de réel, en tout cas de vrai. Et on peut voir un travail d'accouchement à domicile. On peut voir un saut en chute libre. On a bossé sur les quatre éléments mythologiques ou archétypaux qui créent la vie, on va dire. Oui. L'eau, le feu, la terre, l'air. Et on les a détournés sur vraiment des événements contemporains. Je vous invite à aller voir ces clips parce que y avait vraiment l'idée de récupérer des images de gens qui ne sont pas... C'est pas du clip, c'est de la vraie vie, quoi.
C'était une des volontés de cet album, il me semble. Justement,
oui.
Tu viens de parler du fait que c'est très live, une volonté que ce soit du réel et pas du tout retravaillé.
Oui, même si forcément, pardon, on a un peu triché, on a mis des effets. Puis Six, donc Cyril, il avait envie de mettre un petit vocodeur à un moment. Je pouvais pas lui refuser ça, puis ça marche bien. Mais venez nous voir en concert, y a vraiment un travail et de vocaliste et d'instrumentiste qui est exceptionnel, je trouve. Et pour moi, ça m'a amené aussi à réinterpréter mes chansons différemment. Peut-être c'est moins intellectuel, y a une forme de maturité, dirais-je, à 42 ans, mais je sais pas.
De détachement peut-être.
Ouais,
aussi.
De détachement et reprendre mon répertoire, c'était marrant. Il y avait quelque chose de super. Et ça continue, on va jouer... On espère que vous nous verrez en concert les 2-3 prochaines années, au moins, encore.
Et oui, on l'espère aussi. Et pour faire le lien, justement, avec Impressionné, vu que c'est deux choses qui aboutissent à peu près en même temps, c'est pas exactement les mêmes dates, et puis c'est des reprises, tu viens de le dire, mais est-ce qu'il y a eu, malgré tout, un impact de l'un sur l'autre ? Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça qui se sont un peu échangées ou ça a été complètement indépendant au fil du travail ?
Je pense que dans un parcours de carrière artistique, il y a forcément des porosités au niveau des focus et des sujets et des façons d'éclairer les créations. J'ai l'impression que l'aspect libérateur du corps est très présent parce que déjà, travailler sans les machines, sans le looper et tout, j'ai vraiment l'impression d'être une rockstar là, ça y est, je cours partout, je saute, il y a quelque chose de beaucoup plus jouissif physiquement en fait, de plus libre, de plus... Donc ça c'est une étape effectivement, et peut-être qui a amené à impressionner, c'est-à-dire ok, là je vais autant, je chanterai même pas et je vais bouger, mon Dieu.
Je voulais revenir sur la présence de cette tatoueuse, donc de Cher Tendre, qui sera là au lendemain de la représentation, le 29 janvier. Oui. Comment ça s'est passé, cette rencontre, et comment est-ce que vous avez travaillé ensemble ? Est-ce qu'elle a vu déjà une partie du résultat de Impressionné ?
Elle suit la création de loin pour l'instant. Elle va avoir à dispo la première représentation publique et tout ça. C'est une rencontre qui date d'une quasi-vingtaine d'années, je dirais. Elle est costumière aussi. Donc elle m'a fait, je crois, mes premiers costumes de scène. Donc on se connaît depuis un moment. Ça m'intéressait de la convier parce qu'il y a eu énormément de récits autour du tatouage aussi, et du tatouage comme réappropriation de son corps et ou comme intention posée, gravée dans le corps. Et ça me plaisait, voilà, de mêler santé, soins, art graphique, tatouage. Alors, je travaille aussi avec la plasticienne Pascale Silva. On a donné beaucoup d'ateliers d'impressionnés dans différents milieux, centres sociaux et tout. Et c'est pareil, pour moi... C'est une œuvre qui peut être totale parce que notre rapport au corps est permanent. On ne peut pas vivre sans notre corps, là. C'est vraiment, pour moi, un sujet très vaste. Mais j'aimais que tous ces médias artistiques se rencontrent, se répercutent, qu'on ait plein de moyens d'aborder ce sujet du corps qui est tellement précieux, tellement important.
On pourra venir voir Impressionné le 29 janvier au Théâtre La Passerelle.
Oui.
Pour découvrir l'aboutissement de cette création. Et...
Il y aura aussi un stand de prévention de la Maison de la Santé sexuelle départementale. Donc ils seront là aussi et ils proposeront une formation la semaine d'après. Il y aura des gens aussi pour recueillir, si ça crée trop d'émotions. J'ai envie qu'on puisse discuter de tout ça. Il y aura un bord plateau. Venez, on va échanger là-dessus. Il faut qu'on trouve des solutions. Ouais. Qu'on réfléchisse ensemble à comment être mieux ensemble.
C'est quelque chose qui te tient à cœur, ce lien avec le public que tu entretiens.
Oui, je crois. Oui.
Assez souvent.
Oui.
Voilà, et bien, Ottilie, je crois qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. Donc, on invite, bien sûr, nos auditrices et auditeurs à se renseigner sur le site du Théâtre La Passerelle pour pouvoir réserver les billets pour le 29 janvier. Oui. À bien évidemment aller écouter également ton album En Boucle, qui est sorti, à venir te voir en concert. Et voilà, on te retrouve donc en janvier, très bientôt.
Merci.
Rencontre avec les artistes associés et en résidence, Fréquence Mistral et le théâtre La Passerelle à Gap.